Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Et c'est parti pour le journal de la mi-journée. Antoine Samoyau, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Une édition particulièrement politique ce midi. Radio 1 reçoit le président de l'Assemblée de la Polynésie française, Marcel Touyani, pour revenir sur l'actualité qui a marqué et qui va marquer l'institution dans les prochaines semaines. Nous reviendrons également sur les tensions apparues au Tahoeraa ces derniers mois. Et puis ce terrible fait d'hiver à Mahina. Hier soir, un homme d'une quarantaine d'années a aspergé d'essence et brûlé vif sa compagne après une dispute. Le pronostic vital de la victime est engagé. Enfin, nous terminerons cette édition sur du sport avec notre rendez-vous désormais quotidien. On parlera donc VAA et duathlon ce midi. À tout de suite.
Et on démarre donc ce journal avec notre invité du jour, le président de l'Assemblée, Marcel Touyani.
Les élus ont repris cette semaine le chemin de l'Assemblée. La première séance de la session extraordinaire s'est tenue mardi avec l'adoption du contrat de projet 2015-2020. Un vote, il faut le souligner, à l'unanimité des élus Tahoeraa. Alors l'unité du parti est-elle retrouvée? Il est un texte qui semble beaucoup plus compliqué pour le gouvernement et l'Assemblée. C'est celui de la convention validant le retour de l'État au RST, le régime de solidarité. Je vous rappelle que l'État s'est récemment engagé à revenir pendant 3 ans à hauteur de 1,4 milliard de francs par an au financement du RST. Pour évoquer ce sujet, je reçois ce midi le président de l'Assemblée, Marcel Touyani. Monsieur le président, bonjour.
Bonjour.
Alors parlons de ce fameux texte sur le retour de l'État au financement du RST. Vous avez émis en début de semaine quelques réserves sur l'adoption de ce projet de loi. Qu'est-ce qui bloque pour vous?
Tout d'abord, je souhaite saluer les auditeurs de Radio One. S'agissant de la convention qui doit permettre à l'État de revenir au financement du RST, effectivement, nous avons fait part de quelques réserves. Il s'agit bien sûr d'un versement sur 3 années de 12 millions d'euros à partir de cette année, 2015, pour 2016 également 2017. Nous avions cru au départ que ce versement n'était pas lié à des conditions. Lorsque nous avons pris connaissance du projet de convention et surtout les conditions qui sont annexées au projet de convention, bien évidemment, nous avons été très intéressés aux éléments qui ont été présentés au sein de cette convention.
Alors justement, par rapport à ça, le gouvernement, depuis le début, en fait, estime qu'il n'y a aucune contrepartie au versement de 5,4 milliards au RSPF. Pour vous, ce n'est pas le cas?
Écoutez, il ne s'agit pas de prendre en compte, je dirais, tout d'abord mon appréciation. Il s'agit de prendre connaissance des éléments de la convention. La convention prévoit effectivement un versement, un comité de suivi chargé d'étudier la mise en œuvre des préconisations annexées à la convention.
Avec des engagements du pays, on l'a vu, ça a été dit plusieurs fois.
Alors avec l'engagement du pays, bien évidemment, mais on s'aperçoit également que même les établissements publics, excusez-moi, doivent également réaliser un certain nombre de mesures. On parle par exemple de la convention collective qui existe aujourd'hui au sein de la CPS.
Voilà, et c'est ce qui a mené au préavis de grève que l'on connaît et qui prend effet lundi.
Alors, de là, je dirais, à faire le lien de ce préavis de grève à la présentation de cette convention, je ne saurais, je dirais, me déclarer sur ce sujet, mais en tous les cas, on peut relever qu'au sein de la convention, il est demandé à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises au sein de la CPS, au travers de cette convention collective, afin d'améliorer, je dirais, le gain de productivité de l'établissement.
Pour vous, c'est un sujet qui est gênant, qui ne devrait pas figurer dans cette convention, dans cette signature entre l'État et le pays?
Vous savez, il y a d'autres éléments qui méritent réflexion. Par exemple, on parle d'unifier le montant des prestations familiales, d'ailleurs, qui renvoie à une préconisation du rapport Bollier, la préconisation 61. Et lorsqu'on prend connaissance de cette préconisation, on s'aperçoit qu'il est proposé par les inspecteurs qui ont réalisé cette étude pour le compte de la Polynésie française, d'aligner les prestations familiales sur le montant qui est aujourd'hui accordé au régime des salariés, c'est-à-dire 7000 francs. Ce qui aura pour conséquence de baisser les allocations familiales des ressortissants du RST au niveau des cotisants du RGS. Donc aujourd'hui, le gouvernement nous indique que c'est un sujet qui mérite d'être discuté avec l'État, que pour le moment, rien n'est arrêté. En tous les cas, là encore une fois, il ne s'agit pas de donner une appréciation qui est personnelle, il s'agit de mettre en avant les éléments que nous avons. Le rapport de l'IGAS indique une diminution des prestations au même niveau que les prestations du RGS.
Il y avait un autre sujet qui bloquait, c'était justement le cas de la réforme de l'impôt sur les transactions. Qu'est-ce qui ne passe pas sur ce point ?
Alors, vous savez, il faut quand même rappeler que la réforme de cet impôt était déjà prévue au sein du programme politique de Tahura Wiratira.
C'est ça, c'était un point du programme hein, en 2013.
Tout à fait. Nous avions bien évidemment prévu également de lancer cette réforme. Si le Tahura n'avait pas mis en œuvre cette réforme au mois de juillet 2013, lorsque le gouvernement a mis en place cette réforme fiscale, c'est que nous avions besoin de lancer des consultations et surtout évaluer les retombées en termes de réforme de cet impôt. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, en revanche, il n'était pas du tout prévu que les agriculteurs également fassent partie de cette réforme. Donc, nous demandons plus d'explications au gouvernement afin de mieux comprendre quelle orientation souhaite le gouvernement en matière de réforme des impôts sur les transactions.
C'est-à-dire que vous ne vouliez pas de cette réforme, d'une réforme qui aille aussi loin sur l'impôt sur les transactions ?
Non, ça n'avait pas été prévu ainsi au moment de l'élaboration du programme du Tahura Wiratira. Nous étions bien évidemment concentrés sur les bénéfices non commerciaux et les bénéfices commerciaux, mais de là à intégrer également les agriculteurs dans le cadre de cette réforme, nous ne serons pas là du tout.
Sur justement les conditions de ce retour à l'état du financement du RSPF, on voit quand même qu'il y a beaucoup de contreparties sur justement l'engagement d'une réforme de la PSG. Est-ce que selon vous, il ne faut pas quand même aller vers cette réforme de la protection sociale depuis le temps qu'on en parle ?
Si, bien évidemment, nous sommes favorables à ce que la PSG fasse l'objet d'une réflexion, d'une réforme approfondie. Mais encore une fois, la convention qui nous a été présentée est une convention qui concerne le RST. Les conditions qui doivent permettre à l'État de revenir au financement du RST. Dans le cas de cette convention, il est proposé également d'aborder le sujet de la PSG. Je pense que nous aurions dû à ce moment-là aborder le sujet de la PSG de manière globale, avec bien sûr le volet du RST. Or, nous présentons une convention, on nous présente une convention s'agissant expressément du RST, dans lequel nous retrouvons des propositions qui concernent la PSG. Donc, nous avons besoin, bien évidemment, de comprendre et surtout d'évaluer les conditions et le niveau de financement de l'État pour revenir au financement du RST. Je rappelle que ça concerne 12 millions d'euros, c'est-à-dire 1,431 milliard de francs pacifiques pour chaque année, et également une économie que l'État propose à notre collectivité en matière d'évaluation vers la métropole, c'est-à-dire que les actes se feront sur la pathologie et on nous présente une économie de 700 millions. Bien entendu, cette économie représente l'ensemble des régimes et on nous indique que la part concernant le RST représente un tiers de cette économie. Donc vraisemblablement aux alentours de 250 millions, ce qui pourrait, je dirais, représenter en termes d'efforts financiers de l'État aux alentours d'1,6 milliard rien que pour le RST.
Quand est-ce que le dossier doit être examiné en commission à l'Assemblée ?
Alors, le dossier nous avait été présenté mercredi dernier, tard dans la journée. Malheureusement, la commission de l'économie qui s'est réunie le lendemain n'a pas pu examiner ce projet de convention. Donc, vraisemblablement, là, au courant de la semaine prochaine, voire la semaine d'après, la commission sera invitée pour étudier ce projet.
Et en l'état, est-ce que la majorité voterait le texte pour l'instant ?
Nous avons rencontré aujourd'hui le gouvernement. Avant-hier, j'ai invité le gouvernement, le président et l'ensemble de son gouvernement à nous rencontrer ce matin. Malheureusement, le président n'a pas pu se joindre à cette rencontre. Le vice-président était accompagné du ministre du Travail et du futur ministre en charge de la Santé, de la Solidarité et quelques techniciens. Le vice-président nous a indiqué de bien vouloir leur remonter dans les meilleurs délais des propositions, je dirais, de modifications afin de pouvoir rapidement avancer sur ce dossier.
Et ça pourrait donner lieu à des amendements, par exemple, en séance ?
Écoutez, toute modification du texte qui nous a été présenté doit obliger le gouvernement et l'État à rediscuter sur des possibilités d'évolution. Donc, le gouvernement aura, je pense, d'ici le courant de la semaine prochaine, des propositions qui émaneront de la majorité de l'Assemblée de la République française.
Alors, vous avez rencontré le gouvernement, la transition est toute faite. Où en sont aujourd'hui les relations en interne au Tahura 1 ?
Écoutez, je répondrai de deux manières. Tout d'abord, Les élus, la majorité, étaient présentes ce matin pour recevoir le gouvernement. Nous avons discuté, bien évidemment, de cette convention. Et l'autre réponse, je reviendrai bien sûr sur la séance qui s'est tenue mardi dernier et l'adoption du contrat de projet. Les 38 élus ont voté à l'unanimité le contrat de projet. Je dirais que la majorité soutient son gouvernement lorsque les dossiers, je dirais, concernent véritablement l'intérêt général et répond aux préoccupations des Polynésiens, mais surtout fait partie du programme du Tahura-Huratira. Donc nous nous retrouvons sur ces sujets.
Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui sont prévues entre Gaston Plas et Edouard Fritsch, comme celle qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques semaines?
Écoutez, j'aurais espéré que le président viennent ce matin justement pour rencontrer la majorité.
Monsieur Gaston Flos était présent
lors de cette réunion. Bon, je crois comprendre que le président de notre gouvernement a un programme chargé, mais je pense que la semaine prochaine nous aurions l'occasion de nous rencontrer à nouveau et j'ose croire que le président sera cette fois-ci disponible pour nous recevoir.
Il y a des questions qui sont toujours en suspens pour le parti. Est-ce que pour vous la question des candidats au sénatorial, elle est définitivement tranchée?
Écoutez, les instances dirigeantes du Tahura-Huratira se sont prononcées. Le Grand Conseil a acté les candidatures de Vincent Dubois et de Théoura Eriti pour les prochaines élections sénatoriales. Donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu de revenir sur ces choix.
Alors Marcel Touyani, le congrès du Tahura, pardon, est prévu pour bientôt. Vous apparaissez aujourd'hui bien plus proche de Gaston Flos qu'Edouard Fritsch. Est-ce que vous seriez intéressé par le poste de président délégué du parti?
Vous savez, la seule chose qui m'intéresse, c'est que le travail avance. J'ai des responsabilités déjà énormes aujourd'hui à l'Assemblée de la Polynésie française. Et je rappelle que je suis aussi le secrétaire général du mouvement. Le secrétaire général du mouvement a pour responsabilité de s'assurer du bon fonctionnement du parti. Et je peux vous dire que avec ces deux casquettes, la tâche n'est pas simple. Donc il n'est pas question dans mon esprit de briguer une autre fonction. J'ai déjà fort à faire et je souhaite que nos dossiers avancent le mieux possible.
Bon, les choses peuvent évoluer d'ici le grand congrès.
Beaucoup de choses peuvent évoluer, mais il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel n'est pas le congrès, l'essentiel c'est notre pays et les dossiers qui sont en souffrance, qu'il faut rapidement les faire avancer.
Marcel Touyani, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Je vous remercie.
Une pause dans ce journal, il est midi 12, on revient avec un terrible, horrible fait divers, et puis notre page sport. Retour au journal, Antoine, et brièvement, le nouveau PDG de la société électricité de Tahiti est arrivé sur le territoire.
Le président Edouard Fritsch a reçu ce matin le nouveau président directeur général d'EDT, Grégoire de Chilaz. Il succède à Hervé Dubost-Martin, qui a annoncé son départ il y a quelques semaines. Selon un communiqué de la présidence, Grégoire de Chilaz s'est déclaré, je cite, « ravi d'arriver dans un contexte d'apaisement et de rétablissement des liens de confiance entre EDT et le pays ». Le nouveau patron d'EDT et le président du pays ont longuement échangé sur le projet Mahana Beach, mais également sur le développement des énergies renouvelables en Polynésie.
Et le sport pour terminer.
Premier sur le sport, avec sporttahiti.com.
On fait le point sur le duathlon de FAA et le reste de l'actualité sportive avec Tamatoa Tefao.
Une soixantaine de participants pour cette première édition du duathlon de FAA. Malgré un départ tardif à 16h, la chaleur restait présente et la première partie en course à pied a fait souffrir quelques organismes. C'était le cas pour Salomé de Barthès qui a dû arrêter après la première partie pédestre suite à un coup de chaleur. Chez les hommes, dès le départ, c'est un groupe de 5 athlètes qui se détachent, dont 3 pensionnaires de Conatry, avec Laurent Barra, Yohan Hôtelier et Thomas Lubin. Les 3 compères resteront ensemble jusqu'à la première transition, mais Laurent Barra se détache rapidement et conservera la tête de course jusqu'à l'arrivée. Chez les filles, après l'abandon de Salomé, c'est Sophie Bouchonnet du club Mararatri qui tient les manettes de la course. Elle sera la première à franchir la ligne d'arrivée. Karine Soulon termine deuxième et Karine Voiturin complète le podium au scratch. Place maintenant à de l'athlétisme. En bref, après son titre de champion de France en salle décroché il y a 2 semaines, Thomas Tay Dauphin vient d'arriver à Prague pour les championnats d'Europe en salle avec l'équipe de France dont il fait partie. Pour l'entrée tôt du lancer du poids, le rêve devient réalité. Retrouvez les premières impressions du champion dans l'actualité du site. Et toujours à la une de nos articles aujourd'hui, Rehere de Highlander du Death à la conquête du titre Lightweight. L'ambassadeur ATN du MMA et Kickboxing prend l'avion le 14 mars en direction de la Croatie. Il affrontera le russe Sergei Zeninon Inachiov le 16 mars à Zagreb. La 19e édition du Spartan Fighting Championship Croatia donnera l'opportunité à Nontreito d'arracher le titre de champion de la catégorie lightweight en cas de victoire. Découvrez l'interview de Rehere Dudes et le reste de l'actualité sportive sur www.sporttahiti.com.
Et dans le reste de l'actualité sportive, sachez que le dernier numéro du magazine Vagne vous est sorti ce midi. Une édition qui fait le point sur la saison qui vient de reprendre. Un programme assez riche puisque la saison s'annonce très chargée pour Alex Lacroix de Vagne News. Écoutez-le interrogé ce matin au micro de Samia Stambouli.
Nous voilà déjà en 2015. Une nouvelle saison va démarrer et plus que les précédentes, celle-ci s'annonce déjà très chargée avec 44 courses inscrites au calendrier. Et comme chaque année, eh bien Vagne News vous permettra de revivre les temps forts de ces compétitions. Et plus particulièrement les grands rendez-vous tels que Tahiti Nui Va'a, le Fa'ati Moorea, le Te Heito et le Super Heito. Mais en fait, ce qui va véritablement marquer cette année 2015, c'est sans nul doute la première édition de la course Vestis Relais, course à changement de trois rameurs, Te Fa'ati Ora, le défi que Va'a News et la Fédération Tahitienne de Va'a en partenariat, eh bien, ont décidé de lancer au monde du Va'a. Tous les détails, en fait, de cette course, eh bien, vous pourrez les retrouver dans ce premier numéro de l'année. Qui dit début de saison dit forcément calendrier. Retrouvez donc les calendriers des courses de Va'a mais aussi de kayak qui alimenteront notre année, ainsi que le calendrier du stand-up paddle. Le mercato du Va'a, lui, a été encore une fois bien agité en ce début d'année. Vous pourrez en juger par vous-même puisque nous vous proposons le tableau complet des mutations de cette intersaison.
Le magazine, Va'a News, qui est disponible dans toutes les stations-service de Tahiti, ainsi que dans les grandes surfaces et les magasins Va'a Connection et Va'a Factory. Il est également distribué à Riatea, Wainé, Bora Bora et Taha, ainsi qu'aux Marquises.
C'était Premier sur le sport avec sporttahiti.com.
Et on termine ce journal avec un terrible fait divers survenu hier à Mahina.
L'acte est d'une rare cruauté. Vers 18h hier soir, un homme d'une quarantaine d'années a aspergé sa propre femme avec un bidon d'essence avant de la brûler vive. L'information a été révélée ce matin, par nos confrères de Tahiti Info. Le couple s'était disputé hier soir et le mari était totalement ivre lorsqu'il a commis cet acte inhumain. L'individu âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté par les gendarmes peu de temps après les faits et placé en garde à vue. Quant à la victime, elle a été transportée en urgence à l'hôpital de Taoné. Brûlée sur plus de 70% du corps, son pronostic vital est engagé. Elle devrait être évasanée rapidement vers le service des grands brûlés de Nouvelle-Zélande. Le parquet de Papeete, de son côté, a ouvert une enquête de flagrance pour tentative de meurtre et acte de barbarie. L'auteur des faits doit être déféré vendredi après-midi et présenté à un juge d'instruction. Le parquet compte requérir son placement en détention provisoire à Nootania.